Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On vous propose une plongée dans l'univers du numérique, plus précisément de la formation à la cybersécurité. Jean-Nicolas Piotrowski, le PDG d'iTrust, est notre invité. Sa société est experte en sécurité informatique et c'est un acteur incontournable du secteur. iTrust vient d'ouvrir une école, l'Académie numérique du 21e siècle. Qu'on se le dise, le numérique a besoin de mains et de cerveaux. Les entreprises devraient embaucher 100 000 personnes, ce sont les prévisions d'ici 3 ans en France. En Occitanie, le numérique est une filière d'avenir avec 16 500 entreprises et plus de 63 000 emplois. Jean-Nicolas Piotrowski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour Le Goût d'entreprendre. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous avez créé iTrust en 2007.
Oui.
Spécialisé dans la cybersécurité.
Oui, on a commencé un petit moment, cybersécurité pour les entreprises et tenter de les protéger contre les nouvelles menaces.
Contre les attaques.
Les attaques, les malveillances, il peut y avoir des malveillances internes qui ne sont pas forcément des attaques, mais qui sont des malveillances,
donc, ouais.
Les deux.
Tout à fait, les deux attaques de hackers et on va dire petite faute d'inattention en interne.
Exactement.
Alors vous recrutez pour iTrust aujourd'hui.
Beaucoup.
Beaucoup.
Vous voulez des chiffres? Je crois qu'on a 20 postes à pourvoir sur iTrust. Alors, c'est pas que c'est beaucoup, mais pour des entreprises comme nous, où on est 45, ça fait quand même 50% de croissance. Mm-hmm. On a 20 postes à pourvoir. Effectivement, on a des difficultés à les pourvoir. Alors, on y arrive, mais c'est quand même très compliqué parce que, comme vous l'avez dit, il y a. Alors, si on compte uniquement la cybersécurité, ouais, sur le marché toulousain, ou en tout cas grande métropole Toulouse, on a 200 postes à pourvoir dans les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas pourvus.
Qui ne sont pas pourvus.
Uniquement en cybersécurité, donc on ne parle pas de développement logiciel et autres, mais uniquement en cybersécurité.
Alors, mais pourquoi? J'ai envie de vous poser la question, tout simplement.
Pourquoi? Oui. Mais... Alors, parce que c'est un secteur qui n'a pas été forcément pris au sérieux pendant quelques années. Les écoles formées en réseau et télécom, en ingénieur système, en technicien système, la sécurité, les gens n'ont pas forcément cru qu'il y aurait un tel taux de croissance et de besoin dans les années qui arrivent. Et on a aussi des écoles ou des formations qui ont dans leur board des entreprises qui n'avaient pas anticipé ça. Donc quand vous avez au board des très grosses entreprises, au board des écoles, des très grosses entreprises qui vous disent on a besoin d'un ingénieur réseau et qui ne vous disent pas qu'on a besoin d'un ingénieur sécurité, vous arrivez 3 ans après, le jour où il y a besoin d'ingénieur sécurité, ben vous avez 3 ans de retard. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un problème de board au sein des structures de formation, de board et d'écosystèmes
d'anticipation
et de professionnels, ouais, dans les boards. Donc nous, on a fait le tour de ces écoles ou de quelques écoles pour essayer de leur dire, ben écoutez, nous, on va avoir besoin de professionnels dans les années qui arrivent, donc il faut vraiment s'y mettre. Et on a jamais été forcément reçus avec sérieux. Et maintenant qu'on est au pied du mur, alors là, évidemment, tout le monde se réveille et dit, bon, on manque d'ingénieurs en sécurité ou de techniciens en sécurité. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous vous êtes dit, on va faire tout seul. On va s'y mettre, on va créer une école.
Oui, parce qu'on est entrepreneur et qu'on a un petit peu... On est pressé et qu'on a envie d'entreprendre et quand on voit que les choses avancent pas assez vite, on va le faire. Donc on attend particulièrement rien des systèmes autour et on va dire on va le créer nous. Donc un peu comme Niel l'a fait sur l'école 42, il avait besoin de développeurs à Paris. Bon, on s'est dit on va monter une école en cybersécurité. Alors pas que, le but c'était justement de dire il n'y a pas que la cybersécurité, c'est que l'avenir de la sociétale et les entreprises passe par l'intelligence artificielle, la nanotech, la biotech, l'éthique. Toutes ces révolutions qui démarrent à peine et qui vont changer fondamentalement les systèmes industriels, les systèmes sociétaux dans les 50 ans.
Notre société, oui, tout à fait.
Donc, on ne va pas former que des ingénieurs sécurité, on va former des gens qui soient capables de s'adapter à ces modèles-là, s'adapter à l'intelligence artificielle, mais c'est un vrai challenge.
Ouais.
Comme disait Laurent Alexandre, qui est le grand expert en IA en France et en Europe, il faut s'adapter et avoir une personne complémentaire à l'IA et non pas qui arrive en frontal de l'IA. Donc, il faut être complémentaire à l'intelligence artificielle. Donc on l'a monté, on s'est dit avec 4-5 chefs d'entreprise, on va monter ça. Donc c'est un challenge, hein, parce qu'on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas forcément.
Tout à fait, parce que bon, alors entre ce que vous faites, ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui, la formation tout de même, il y a, j'ai un peu envie de dire un fossé, mais pas loin. Et puis vous devez découvrir aussi que dans l'univers de la formation, il y a, pardonnez-moi cette expression, à boire et à manger.
Voilà, c'est ce qu'on a découvert. On a mis un pied dans quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a été assez surpris des méthodes, du corporatisme, d'un système qui est assez sclérosé parfois, pas partout évidemment, parce qu'il y a de très bonnes écoles. Mais donc ça nous a fait un peu sourire, parce que nous on aime bien ça, mettre un petit peu de dynamique dans tout ça, quand on est entrepreneur.
Dépoussiérer.
Ouais, dépoussiérer, bon, je veux pas utiliser des termes trop forts, mais c'est vraiment un milieu très très particulier. Donc ça nous a de suite intéressé, parce que tout ce qui est nouveau nous intéresse. Donc on est 4-5 chefs d'entreprise à avoir monté ça, et à se dire, ben bon, on va quand même avoir le challenge de monter quelque chose dans un environnement qui est quand même assez hostile à nous. Puisque l'entreprise vient dans le domaine de l'éducation, c'est pas forcément bien vu. On est potentiellement des concurrents à d'autres écoles. Et nous, on leur a dit non, pas du tout. De toute façon, il y a un besoin. On forme pas assez d'ingénieurs. Donc, c'est pas une question de concurrence. C'est juste une question de répondre à des problématiques très concrètes du terrain. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui sont pas formés sur nos technologies au sens de savoir-faire. Non pas de produits, mais de savoir-faire. On a besoin de ça. On a besoin de gens qui ont un savoir-être qui soit plus important que ce qu'on a aujourd'hui. On a besoin de gens qui vont s'interfacer avec l'intelligence artificielle dans les années qui arrivent. Donc en fait, c'est beaucoup plus que former des gens. C'est former. On est en train de passer un cap sociétal où l'école va devoir se remettre en question fondamentalement dans beaucoup de directions, parce qu'il y a ces révolutions qui arrivent. La révolution de nanotech, biotech, IA, c'est quelque chose qui va bouleverser la société
dans les
50 ans qui arrivent, donc
ça.
Il faut l'anticiper. C'est pas avec les méthodes anciennes qu'on va y arriver. Donc voilà, on monte l'école, donc elle ouvre en mars.
Vous ouvrez en mars, là, 2019. D'accord, formation initiale, formation continue, on va préciser.
Alors il y a un peu de tout, on prend des bacs plus 2 dans un premier temps pour les former pendant un an en bachelor, pour après les amener sur des formations en bac plus 4 et bac plus 5, donc pendant 2 ans, pour être ingénieur double compétence. Avec des diplômes d'ingénieur référencés RNCP, c'est-à-dire qui sont reconnus nationalement et au niveau de l'Union européenne.
Par le ministère du Travail, ce ne sont pas des titres éducation nationale.
Ce sont des ministères, oui, c'est reconnu par le ministère
du
Travail et de l'Union européenne.
Ouais.
C'est des RNCP, donc c'est labellisé par l'État. Donc les ingénieurs, les personnes, les étudiants sortiront avec un diplôme d'ingénieur. Bac plus 4 ou bac plus 5 sur des doubles compétences, c'est-à-dire... On a de plus en plus, et ça c'est l'évolution de la société du travail, qui fait qu'on a besoin de gens qui soient non pas monocompétences. Si on veut concurrencer d'autres pays à l'international, puisqu'aujourd'hui on est en concurrence avec le monde entier, il faut des ingénieurs ou des techniciens qui soient capables d'avoir des doubles compétences. Par exemple, cybersécurité, développement logiciel, intelligence artificielle, cybersécurité. Et avec ça, on arrive à avoir une valeur ajoutée qui est colossale pour les ingénieurs. Et c'est des travaux qu'on ne pourra pas délocaliser. On ne pourra pas demain avoir des ingénieurs double compétence en Inde. Donc ça, c'est une vraie valeur pour eux. Donc ils vont être formés avec Bac plus 4, Bac plus 5. Nous, on leur propose de l'alternance avec des entreprises qui sont partenaires à l'école.
Dès l'entrée de l'école, donc voilà. C'est en alternance.
Dès l'entrée, on a déjà les entreprises qui ont validé des cursus d'apprentissage, donc qui s'engagent à prendre les étudiants pendant un an ou deux ans sur l'apprentissage. Donc l'étudiant arrive, postule, il a quelques tests pour intégrer à l'école, des tests techniques d'évaluation, des tests de savoir-être à l'oral. Là, il y a des entreprises qui lui proposent d'ores et déjà, il n'a pas allé les chercher, il y a des entreprises qui lui proposent des sujets d'apprentissage pendant un an ou deux ans. L'entreprise et l'étudiant se mettent d'accord. L'étudiant sera présent à 3 cinquièmes de temps à l'entreprise et 2 cinquièmes de temps à l'école. Et là, donc, ils font un cursus double, à la fois, par exemple, cybersécurité et développement logiciel. Et au bout de 2 ou 3 ans, si la personne est arrivée en bac plus 2, ce sera une formation qui est de 2 à 3 ans si elle veut sortir bac plus 4 ou bac plus 5. Et l'entreprise a d'ores et déjà prévu de l'embaucher. Alors évidemment, c'est à l'oral, on n'a pas de contrat, puisque l'entreprise ne peut pas s'engager 2 ans avant. Mais elle a les postes libérés pour embaucher ces étudiants à l'issue des formations.
Alors, ce qui veut dire que là, aujourd'hui, les étudiants qui veulent rentrer chez vous, donc à la rentrée prochaine, en septembre 2019, n'auront pas tous ces tracas et soucis de recherche d'entreprise.
Parce que
c'est vrai que l'apprentissage en France, ça progresse, vous êtes d'accord, à petits pas. Et c'est surtout compliqué pour les étudiants de trouver une entreprise qui les accueille.
Oui, c'est compliqué. Ils ne savent pas forcément comment chercher. Ils n'ont pas les habitudes. Ils ne sont pas formés à ça. Et on ne leur explique pas à l'école comment se débrouiller pour aller chercher un apprentissage. Donc nous, notre force, c'est de dire, on a aujourd'hui une quinzaine d'entreprises partenaires de l'école, alors qui vont de la très grosse à la petite. Vous allez de la Caisse d'épargne, à Météo France, jusqu'à des petites start-up voire des banques qui sont partenaires à l'école, qui s'engagent à libérer un certain nombre de postes et on propose ces postes aux étudiants. Donc ils arrivent, ils ont en fait le poste apprentissage, peut-être potentiellement le CDI dans les 2 ans, tout ça pour pas grand-chose, puisqu'en plus l'école est pratiquement gratuite, puisque c'est l'entreprise qui va payer.
Voilà, son contrat d'apprentissage.
Voilà, exactement.
Ouais, d'accord, ok. Vous n'êtes pas seul donc, dans le projet, on le disait, hein, il y a d'autres entreprises avec vous. Alors, toutes, pareil, ont ces mêmes besoins identifiés, mais j'ai envie de vous demander, mais attendez, quand on parle de recruter 100 000 personnes dans les 3 ans qui viennent en France, c'est quand même énorme, mais pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce qu'on a pris trop de retard? Est-ce qu'on a... Tout à l'heure, on l'évoquait, on n'a pas anticipé suffisamment. J'ai envie de dire aussi, c'est une question à tiroir. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître sur le marché des acteurs qui n'auraient pas forcément des intentions, pardonnez-moi l'expression, louables en matière de formation et qui s'engouffrent un petit peu dans cette brèche?
Il y en a déjà, hein, puisqu'on vient de mettre le pied dans le domaine de la formation. On se rend compte qu'il y a des choses assez particulières, mais... Donc ça existe déjà, mais oui, non, c'est juste un problème d'anticipation, mais parce que de toute façon, pourquoi vous voyez autant de start-up aujourd'hui qui fleurissent parce qu'il y a tellement d'innovations à créer que les grands groupes n'ont pas anticipé ça, et comme ces grands groupes font partie des boards des écoles, elles n'ont pas pu anticiper sur les besoins qu'on aurait. Donc c'est assez classique, si ce n'est que là, on a 3 ans de retard. Donc le temps que les écoles se mettent, changent leur board et leur société partenaire, ou les fassent évoluer, ça va prendre du temps. Donc il y a de plus en plus d'écoles de formation qui se montent aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit des écoles qui forment en 6 mois, d'autres sur des diplômes officiels comme les nôtres, d'autres sur des périodes très courtes. Nous, on veut pas rentrer dans un modèle qui existe déjà. On est désolé, mais on considère que la formation doit être faite différemment, avec de l'apprentissage, avec des projets structurés apportés par les entreprises, c'est-à-dire très concrets, parce qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui sortent qui ne sont pas concrets, parce qu'on les fait, c'est une méthode française, évidemment, de les former sur des concepts, ce qui est très bien,
ce qui peut être très bien sur la théorie,
mais il y a un moment donné, quand l'entreprise embauche un étudiant ou un ingénieur, il faut qu'il soit opérationnel en 1 ou 2 mois. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a besoin de gens qui sont vraiment opérationnels, et ça n'empêche que on va les former d'ailleurs à l'école AN21, l'Académie numérique du 21e siècle, sur des choses qui sont quand même très théoriques aussi. Parce que de toute façon, quand on met le focus sur la pratique, on a aussi en parallèle des choses très théoriques. On va avoir de l'éthique, on va avoir de la philosophie, de la gestion de projets agiles. Donc on va en faire. Par contre, on va mettre l'accent sur des projets très concrets. Et la philosophie, l'éthique vont leur permettre d'avoir ce background de réflexion qui leur permet à un moment donné de s'orienter, de créer leur propre start-up et de dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est utile à la société ou est-ce que c'est juste pour faire de l'argent? Et quand ils vont travailler sur l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose de très compliqué où il faut faire très attention parce qu'on risque, on met le doigt dans quelque chose de très dangereux potentiellement qui est aussi fantastique et qui peut être un atout formidable. Mais il faut parler d'éthique et de philosophie. Parce que comment va interagir une machine ou un programme avec l'être humain demain? Quel va être son impact? Il faut parler d'éthique. Si vous avez de l'intelligence artificielle qui est mal conçue, des algorithmes qui sont mal conçus, vous pouvez leur faire apprendre n'importe quoi. Oui, vous reprenez l'exemple de... C'était Google, je crois, qui avait fait apprendre à certains algorithmes à échanger sur des forums de discussion. Le logiciel, au bout d'un moment, avait des discours nazis et était lui-même rentré dans un comportement humain anormal. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà, donc tout ça, ça a des impacts colossaux. Donc, le savoir-être et la capacité de réflexion, d'adaptation à l'IA et au numérique sont vraiment super importants dans les années qui arrivent.
À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec notre invité, le PDG d'iTrust, Jean-Nicolas Piotrowski. Merci d'être avec nous. Il est beaucoup question de numérique. Alors, on le sait tous, Jean-Nicolas, le numérique, c'est fantastique. c'est aussi éthique. Bonjour, Jean-Marc Fontaine.
Bonjour, Doris. Bonjour, Jean-Nicolas.
Bonjour. Un de nos référents pour le goût d'entreprendre. Jean-Marc, première question.
Alors, un des principes qui est avancé pour le fonctionnement de AN21, c'est l'agilité. En particulier, vous dites, pour apporter souplesse et adaptabilité, Notre approche pédagogique s'appuie sur un modèle interactif en lien étroit et permanent avec l'univers de l'entreprise, hors des méthodes classiques et standards. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les caractéristiques de ce modèle pédagogique? En quoi est-il hors des méthodes classiques et standards? Et qui sont les intervenants? Comment est-il été préparé à cette approche pédagogique?
Alors, concrètement, c'est par exemple faire davantage de MOOC, c'est-à-dire de non pas des cours sur tableau blanc, mais avoir des interactions et des vidéos, par exemple, sur Internet, qui vont être expliquées par des experts du métier à des étudiants. Avoir davantage de travaux collaboratifs sur des sujets très particuliers qui mêlent à la fois la capacité à développer un logiciel, mais aussi à comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on a un retour sur investissement, comment on fait un cahier de spécifications, comment on développe en méthode agile, c'est-à-dire en méthode Scrum, etc. C'est-à-dire tout le contexte d'un environnement de développement logiciel. Pour que les ingénieurs, le but c'est quoi ? C'est de leur donner les billes et les capacités à faire face demain à des nouveaux environnements, mais tout en étant très pragmatique et concret. Les nouveaux environnements, c'est changement de méthode de développement. On a changé de méthode de développement pendant 20 ans, 4, 5, 6 fois. Donc l'enjeu, il est à l'adaptabilité des personnes dans les années qui arrivent. Il est à la double compétence et l'adaptabilité, je répète. Hein. Double compétence, adaptabilité. Et pour ça, il faut des gens qui ont un cerveau bien formé, mais très opérationnel, mais qui ont une très grande culture générale. Donc la culture générale, ça veut dire des travaux pratiques, mais je reviens, philosophie, éthique, géopolitique. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils sachent pourquoi ils le font et qu'ils ne se retrouvent pas embarqués un jour à développer un algorithme qui va à l'encontre de l'humanité.
C'est ça, voilà.
Donc c'est la culture générale. Être complémentaire de l'IA, du numérique, de l'ordinateur, c'est ça l'enjeu des années qui arrivent.
C'est-à-dire penser humain. Penser machine, bien sûr, mais penser humain.
Penser humain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, une machine, elle n'est pas intelligente. Une machine, c'est... On lui inscrit, on la programme, donc ça reste un humain qui la programme. Donc si elle a un défaut un jour, c'est parce que l'humain l'a mal programmée. Elle ne fait que faire ce qu'on lui dit de faire ou ce qu'elle a appris par apprentissage. On revient sur des modèles mathématiques, apprentissage par machine learning par exemple. Donc aujourd'hui, une machine n'est pas capable de réfléchir ou de créer toute seule, en tout cas pour l'instant. Et nous, on estime que ce ne sera pas avant 100 ans qu'on y arrivera. Les experts ne sont pas tous d'accord, mais en tout cas, moi, mon avis est très clair là-dessus. Donc, pendant 100 ans, on a encore de la marge. Pendant 100 ans, c'est les humains qui vont créer ces logiciels, ces machines, et leur apprendre. Donc, s'il y a une erreur, c'est que l'humain a mal fait son travail. D'où l'intérêt de bien former les humains dans les années qui arrivent.
Qui seront les enseignants de votre école ?
Alors, on aura de tout. On aura, oui, je n'ai pas répondu à la question. Vous faites bien de me relancer.
On
aura à la fois des historiques, des pédagogues qui font ça dans d'autres écoles parce que c'est très, très bien. Mais on va avoir beaucoup de professionnels. Donc, on va essayer de faire 50% professionnels d'ingénieurs qui travaillent déjà dans les entreprises, qui ont des cas concrets. On va avoir 50% de professeurs pédagogues qui ont des méthodologies de pédagogie beaucoup plus évoluées. Et par contre, on va en parallèle, le soir, le week-end, sur des événements particuliers, faire intervenir des très hauts niveaux de chercheurs, d'experts sur des conférences d'une demi-journée. Par exemple, on espère avoir Laurent Alexandre sur l'IA pendant une demi-journée. J'en ai discuté avec Nicolas Bouzou, avec qui j'étais à Las Vegas il y a 3 semaines sur le CES Las Vegas. Il est d'accord pour intervenir, donc on aura des très gros économistes importants qui peuvent intervenir sur ces sujets-là. Et le but, c'est de on a M. Ganassia, on a des chercheurs de l'ICT aussi qui peuvent intervenir sur la philosophie.
L'Institut catholique de Toulouse.
Exactement, ouais. L'ICT sur la biotech, etc.
Justement, votre partenaire académique privilégié, c'est l'ESAEP.
Oui.
Qui veut dire École supérieure angevine d'informatique et de productivité, si je me
m'abuse. Oui.
Laquelle école possède une chaire cybersécurité et IoT. Alors, quel type de lien existe-t-il entre cette chaire et puis AN21?
Alors, on a un lien direct, c'est-à-dire que l'ESAEP souhaite s'installer davantage sur la région sud-ouest et notre projet s'inscrivait bien dans leur stratégie de pouvoir, dans un premier temps, monter une école avec des gens de la région, comme nous. Et de nous aider à la montée. Donc, ils nous mettent à disposition leur diplôme RNCP d'ingénieur cybersécurité, qui sera le diplôme qui sera délivré aux étudiants de l'AN21. Et ils nous aident évidemment sur la pédagogie, sur tout l'historique qu'ils ont, parce que ce sont des sachants, c'est leur métier depuis des années, alors que nous, on est des entrepreneurs. Donc, ils nous fournissent tout le back-office pour avoir l'école. ils viennent d'ailleurs dans pas longtemps pour inaugurer l'école et pour participer au projet pédagogique pour qu'on affine davantage les modules de cours, parce qu'il va falloir qu'on respecte à la fois les modules de cours du RNCP, du diplôme d'ingénieur de l'ESEP, mais à la fois qu'on y ajoute nos parties à nous qui sont beaucoup plus intelligence artificielle et robotique.
Vous allez enseigner vous aussi ?
Oui, mais je pense que je donnerai plutôt une conférence d'une heure ou deux parce que je suis pas sûr d'être un grand pédagogue. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que ça. Par contre, il y a des ingénieurs d'iTrust qui vont en participer. Il y a des data scientists très importants en France. On a 2-3 experts qui sont de très haut niveau, donc je pense qu'on aura des très bons professeurs.
Alors, pour revenir sur les AIP, c'est une école lassallienne. Hein, alors, et cette référence à la salle, en fait, ramène sur des valeurs. Alors, ces valeurs, c'est le sens des responsabilités, le service envers la collectivité et donc, quelque part, le sens du bien commun, le respect de l'autre et de la différence, justice et équité. Et puis formation pour tous. Alors on comprend aisément combien des valeurs sont importantes dans les activités relatives à la science des données, à l'intelligence artificielle, vous l'avez déjà évoqué. Hein, tout ce qui est communication par Internet, la cybersécurité. Je pense que vous avez vu récemment à Montréal, Thalès, par exemple, a placé son intelligence artificielle sous le signe de l'éthique et a fixé des lignes rouges. Hein. Il y a la déclaration de Montréal pour un développement de l'IA responsable. Hein. Et plus près de nous encore, il y a l'Université fédérale de Toulouse qui vient d'annoncer la création d'une chaire UNESCO baptisée Éthique, Sciences et Société pour le développement d'une science responsable. Alors, reprenez-vous toutes ces valeurs citées plus haut à votre compte, à l'Académie numérique du 21, et comment sensibilisez-vous les étudiants apprentis à des valeurs essentielles ou au respect d'une éthique ?
Alors, c'est un vaste sujet. Parce que là, ça serait prétentieux de dire qu'on va arriver à faire tout ce que vous avez dit, parce que on est dans un moment de rupture assez important dans la société, dans l'économie, où tout ce que vous dites va rentrer en jeu dans les 50 ans qui arrivent. Donc, c'est très compliqué d'être précurseur là-dessus. Donc, oui, on se base là-dessus. Maintenant, avoir une maîtrise totale de tout ce que vous dites, c'est quand même très compliqué, surtout quand vous venez de créer une école. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on cherche des ingénieurs, on cherche à former des gens qui vont avoir un savoir-être et deux, qui vont avoir cette capacité à prendre du recul sur ce qu'ils font. Donc, c'est ce que vous dites. Le recul sur ce qu'ils font, on a déjà intégré des parties de cours, justement, sur la philosophie, l'éthique, l'IA, quel est l'impact de l'IA dans la société. Alors, on n'a pas la réponse, hein. Quel est l'impact de l'IA dans la société ? On n'a pas la réponse, mais au moins qu'on y réfléchisse tous ensemble. Alors pour ça, on s'est rapproché d'un think tank Next Humanity qui a été créé par des entrepreneurs dont je fais partie, qui réunit des experts et des chercheurs sur différents domaines. Et on va les faire intervenir pour que justement ils amènent cette profondeur. Donc ça ne va pas être les professeurs classiques qui vont le faire, ça va être les gens qui ont un vrai recul par rapport à tout ça, qui est vraiment divers, hein, puisqu'on ne prétend pas avoir la vérité, puisque là-dessus, il n'y a pas de vérité. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de vérité aujourd'hui là-dessus, puisqu'on ne sait pas dans quel monde on est en train de rentrer. Par contre, il faut tenter de l'anticiper, ce qui est très difficile. Donc, eux vont apporter ça. Donc, vous avez des chercheurs comme Ganassia ou comme, je parlais de Nicolas Bouzou sur l'économie, Laurent Alexandre, si on arrive à le faire venir, d'autres personnes, effectivement, de l'ICT qui travaillent sur la philosophie et les biotech, qui vont apporter cette dimension-là. Prétendre dire qu'on va y arriver en 2 ans... je n'irai pas jusque là. Moi, j'aimerais juste que les étudiants sachent pourquoi ils travaillent, parce qu'on a quand même un vrai déficit, à mon avis, de valeur du travail. Pourquoi on fait ce travail-là ? Quelle est la finalité de créer un algorithme ? Quelle est la finalité de créer un logiciel ? Certes, c'est parce qu'on veut construire des cathédrales, des cathédrales au sens noble du terme, comme le disait Saint-Exupéry. Hein. S'enrichir,
grandir,
se grandir, pardon, je cherche le terme, se grandir par rapport à ça, il nous faut un sens à ça. Et ça, l'entreprise est là pour ça. L'entreprise, elle est là pour donner du sens. Elle n'est pas là pour rendre les gens heureux, elle est là pour donner du sens. Donc on essaie de donner du sens aussi dans l'école pour leur dire pourquoi vous faites ça, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Si demain vous montez une start-up sur l'IA, effectivement réfléchissez à savoir est-ce que l'algorithme que vous allez créer, il est conçu de manière éthique, est-ce qu'il a pour ambition de générer de l'argent ou est-ce qu'il a aussi pour ambition de faire en sorte que la société se porte mieux.
Une toute dernière question, et après on amènera une précision, c'est important, sur le niveau de recrutement de l'école qui ouvre donc au mois de mars. Une dernière question, Jean-Marc.
Est-ce qu'à terme, vous pensez vous orienter vers une labellisation du réseau GN Grande École du Numérique ? Ou pas ? Ou c'est pas dans vos plans ?
Ouais, on a plein de propositions. On a des propositions de la French Tech qui veut aussi qu'on fasse partie de la French Tech au travers de l'école. On a le gouvernement qui veut qu'on s'inscrit dans la démarche des entreprises labellisées cybersécurité, Cybernum, je crois que ça s'appelle, qui identifie les entreprises, les écoles qui vont avoir une certaine démarche de sécurité souveraine, éthique. Puisque là, si vous formez des pirates ou des hackers en informatique, il faudrait pas qu'ils travaillent demain pour des gouvernements étrangers. Donc, tout ça, c'est quand même très imbriqué. L'IA, l'éthique, la sécurité, tout ça est très imbriqué. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, on a tellement de propositions. Ça démarre à peine. Notre objectif, c'est de faire des choses, j'espère, intelligentes, respectueuse de notre société. Donc voilà, tout ce qui ira dans ce sens, on le fera. Après, si c'est juste pour avoir un label, ça, c'est pas intéressant. Voilà,
Vous êtes très attendu. Très, très attendu. Donc, si des étudiants nous écoutent et sont intéressés, ils peuvent d'ores et déjà vous envoyer leur candidature.
Oui.
Sur le site internet.
Oui, il y a un site AN21.fr, comme l'Académie numérique du 21e siècle.fr.
Voilà, tout à fait. Et ensuite, ça suivra son cours.
Oui, on présente ça à des entreprises qui proposent des contrats d'apprentissage et puis on les recontacte.
Merci à vous, merci pour votre intervention. Nous sommes un peu pris par le temps. Merci Jean-Nicolas, merci à vous Jean-Marc Fontaine. Merci également à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous le faire entreprendre. @radioprésence.com
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.